Donc, je laisse la parole maintenant à Étienne Gilles sur l'effet papillon.
Merci. Alors, en préliminaire, je voudrais commencer par dire, je ne sais pas si vous serez déçu ou pas, que je n'ai pas l'intention de parler de mathématiques. J'ai l'intention de parler autour des mathématiques. Hein? Alors, ça commence mal, peut-être, pour certains d'entre vous. Vous pouvez sortir si vous voulez. Voilà. Donc, le point de départ de ma réflexion, c'est la chose suivante, c'est que si on y réfléchit bien, il y a vraiment très, très, très peu de concepts scientifiques qui passent dans le grand public. Si vous cherchez des concepts que les gens connaissent, eh bien, il y a des gens qui savent ce que c'est qu'un trou noir, ou au moins ils croient savoir ce que c'est. Il y a des gens qui parlent de relativité, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire, mais ils en parlent. On parle parfois du principe d'incertitude ou des choses comme ça, dans des milieux plus restreints. Mais quels sont les concepts scientifiques, et en particulier les mathématiques, qui ont eu la chance de passer la barrière et de, au moins dans la terminologie, de rentrer dans le grand public? Alors, j'en vois pas beaucoup, en fait. Même en définissant le grand public au sens très restreint, je pense qu'il y a essentiellement les ensembles fractales, dont on parle parfois. Et puis, il y a, vous êtes trop jeunes, la plupart d'entre vous, pour vous souvenir de ça, mais il fut un temps où on parlait de la théorie des catastrophes, qui était relativement populaire. On en parlait sur France Culture, des choses comme ça. Et je voudrais aujourd'hui discuter aujourd'hui de l'effet papillon, qui, à mon avis, est aussi l'un des exemples de concepts mathématiques, physiques, on va revenir là-dessus, qui a passé la frontière et que les gens connaissent plus ou moins, en fait, sans vraiment le connaître. Alors, le but de cet exposé, c'est d'essayer de comprendre un peu pourquoi c'est devenu populaire, comment ça s'est passé d'un point de vue historique, et puis, en passant, je vais quand même essayer de faire un peu de science, et j'espère qu'en sortant d'ici, vous saurez ce que c'est vraiment l'effet papillon et ce que ça n'est pas. Hein? Et puis, au milieu, j'ai envie de, très rapidement de vous expliquer un tout petit peu comment, à titre personnel, ma route de mathématicien a rencontré cet effet papillon à un moment, et je vous expliquerai un tout petit peu pourquoi ça m'a intéressé récemment. Donc voilà le but. Alors commençons par le début. Alors le caméraman m'a dit que je n'ai pas le droit de bouger, mais je suis difficile à ne pas bouger. Commençons par le début, en 62. Alors le héros de mon histoire, c'est bien sûr Lorentz. Edward Lorentz est né en 1917, et vous allez voir que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et l'une des raisons qui font que j'ai de l'admiration pour lui, c'est que c'est à la fois un mathématicien et un physicien, et de manière profonde dans les deux cas. Alors, ça s'explique par une raison purement historique, c'est qu'il avait commencé à faire une thèse en mathématiques à Princeton, et puis la Seconde Guerre mondiale est arrivée, il est parti à l'armée, et puis il a été muté dans les services de météorologie. Et puis il a travaillé en météorologie balbutiante à l'époque, et puis quand il est revenu de la guerre, ça y est, il avait une formation, et il est devenu, je ne sais pas s'il faut dire météorologue ou météorologiste. Météorologiste. Il est devenu, comment on dit en français? Météorologue. Comment? Ingénieur météo. Ingénieur météo. Je ne sais pas si on disait ça à l'époque. Donc il est devenu ingénieur météo, et ça a été sa profession pendant le restant de ses jours. Et c'était bien sûr un théoricien, puisqu'il venait vraiment de mathématiques pures, comme on dit parfois. Alors le problème qui l'a intéressé, vous voyez, c'est écrit là, en 62, il s'est intéressé à un problème qui intéresse encore beaucoup les gens aujourd'hui, le problème de la convection dans l'atmosphère. Alors, vous connaissez un peu le principe. Il y a une atmosphère, et puis en bas, c'est chaud, puis en haut, c'est froid. Et puis, l'air qui est en bas, il a envie de monter par effet d'Archimède, Et puis, en montant, il se dilate, et puis enfin, il se contracte, et puis donc, il est plus lourd, et puis il a envie de redescendre. Donc, il y a des forces qui poussent à monter, des forces qui poussent à descendre. Et puis, ça engendre des mouvements dans l'atmosphère d'une complexité extrême qu'on comprend un petit peu aujourd'hui, mais pour être honnête, on ne comprend pas encore très bien. Et c'est bien sûr un phénomène fondamental pour expliquer la météorologie, comprendre ce qui se passe dans l'atmosphère. Et alors, ce que fait Lorentz donc en 62, c'est qu'il fait ce que font la plupart des mathématiciens. Quand on a un problème difficile à résoudre, on change de problème et on résout un autre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'équation compliquée, hein, l'équation de Navier-Stokes qui régit le mouvement de l'atmosphère, qui est une équation aux dérivées partielles, ou si vous préférez, qui utilise une infinité de variables, et puis il simplifie à l'extrême, il caricature son équation, et il la caricature tellement qu'il la remplace par une équation qui n'utilise plus que trois variables. Alors je vais vous expliquer ce qu'il fait. Là, ici, ça illustre un peu le genre de phénomène qui se passe. voilà, il remplace la donnée atmosphérique par trois nombres. J'ai appelé ici x, y, z. Alors, c'est même pas la peine de me demander ce que c'est que ces nombres, si c'est la pression, si c'est je ne sais quelle quantité physique, tellement c'est devenu caricatural. Alors, en fait, il a pris ses fonctions, il développe en série de Fourier, il prend les trois premiers coefficients, enfin, il se pose pas de questions. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'article dont je vais vous parler tout à l'heure, dans cet article, il a un regard sur son activité qui est absolument fantastique, dans la mesure où il sait ce qu'il fait, il sait qu'il caricature son équation, et il a une démarche vraiment de mathématicien en disant qu'est-ce qui se passe si je vais à l'essence du problème en caricaturant l'équation, quitte à peut-être en perdre l'intérêt physique. Et donc il arrive à cette équation différentielle en trois variables, ça sera les seules équations, de mon exposé, donc ne vous inquiétez pas, si vous ne la comprenez pas, ce n'est pas grave, hein, c'est donc une équation différentielle ordinaire dans R3, dx sur dt égale 10 fois x moins y, dy sur dt égale 28, on voit que c'est un physicien, il y a des vrais chiffres, hein. Dy sur dt égale 28 fois x moins y moins xz, et dz sur dt égale xy moins 8 tiers de z. Alors cette équation est là, et qu'est-ce qu'il fait? On est en 62, les tout premiers ordinateurs commencent à fonctionner. Eh bien, il demande à un ordinateur de prendre une condition initiale x, y, z, et regarder la solution qui passe par ce point. Et voilà ce qu'il voit, ou voilà ce qu'il aurait pu voir s'il avait eu comme ordinateur un Macintosh que j'ai. Il voit la chose suivante. Il voit une orbite qui se déplace dans l'espace et qui se met à suivre des mouvements complètement erratiques. Vous voyez, cet objet que vous avez sur l'écran, qu'on appelle aujourd'hui l'attracteur de Lorentz, décrit le mouvement d'un point dans l'espace, mais un point, c'est moralement une position de l'atmosphère, au cours du temps. Et vous voyez que cet objet ressemble plus ou moins aux deux oreilles de Mickey, et puis on tourne dans une oreille, puis dans l'autre oreille, puis dans l'une, puis dans l'autre, et semble-t-il de manière aléatoire. Vous voyez, le mot est lâché, j'emploie le mot aléatoire, dans un système qui est déterministe, puisqu'il s'agit d'une équation différentielle que l'ordinateur peut résoudre pas à pas sans problème. Donc on se trouve devant une équation différentielle complètement déterministe, qui régit le mouvement déterministe d'un point dans l'espace, et pourtant, le mouvement de ce point semble aléatoire. Alors il est complètement fasciné par ce phénomène, et il arrive à extraire de ce phénomène ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène de dépendance sensible aux conditions initiales, qui, en termes très simples, c'est la chose suivante. Si vous avez deux points qui sont à petite distance initialement, eh bien, après un temps pas trop grand, ils se seront espacés de manière significative. Si vous avez deux points qui sont à distance 10 puissance moins 50, eh bien, après 15 jours, ils sont à une distance 10 mètres. Alors ça, c'est un phénomène qui ne surprend pas un mathématicien. Tout mathématicien a déjà vu des hyperboles ou des exponentielles comme ça. Mais ce qui surprend le physicien, Lorentz, c'est que ce genre de phénomène d'instabilité, de dépendance sensible aux conditions initiales, puisse apparaître dans un phénomène de la nature de tous les jours, dans un truc qu'on rencontre dans l'atmosphère. C'est ça qui le surprend. Alors, comme il est en même temps physicien, et qu'il n'aime pas trop caricaturer les vrais problèmes de physique pour les remplacer par des faux problèmes de maths, eh bien, il a quand même une idée qui est assez extraordinaire dans son article. Ça consiste à dire, bon, d'accord, j'ai triché sur mon problème, mais je vais quand même, pour m'excuser, vous montrer un exemple d'un problème physique, un vrai problème de physique, comme on fait des expériences quand on est en maths sup, un vrai problème de physique dont l'évolution se fait exactement suivant l'équation que j'ai écrite tout à l'heure. Autrement dit, j'ai trafiqué l'équation du système atmosphérique, mais j'ai une équation dont on ne sait absolument pas si son comportement a quelque chose à voir avec la météorologie, mais au moins, je vais vous montrer un phénomène de physique qui est régi par ce comportement aléatoire. Alors, je vais vous le montrer, le phénomène. C'est un phénomène tout à fait intéressant. Alors, le voilà. Oh non, je vais vous montrer après. Je vais vous montrer d'abord l'expérience, qu'on va parler un peu de physique. Voilà. C'est une expérience assez rigolote. Vous avez un bassin d'eau, là, et puis il y a un tuyau, puis il y a de l'eau qui coule par le tuyau, et puis ça tombe sur une route vélo, et autour de la route vélo, il y a des gobelets, en plastique. L'eau tombe dans les gobelets, remplit les gobelets, mais les gobelets ont des petites fuites au fond. Les gobelets fuient. Il y a un petit trou au fond de chaque gobelet. Donc l'eau tombe dans les gobelets et elle pousse vers descendre la roue de vélo, mais en même temps ça fuit, donc, et en même temps ça tourne. Et vous voyez que c'est un système dynamique, un système physique, qui finalement n'est pas extrêmement compliqué. Pour décrire la position, il faut dire l'angle de la roue, la quantité d'eau qu'il y a dans chaque truc, c'est un truc qui peut être modélisé, c'est vraiment un genre... problème de physique du concours d'entrée d'ici, quoi. Ça, c'est pas très difficile, c'est des trucs qui se passent en dimension finie, quoi. Hein, c'est pas des équations de dimension infinie, hein. C'est vraiment... Et ce que montre Lorentz, c'est que ce système physique concret est régi exactement par l'équation différentielle naïve à 3 degrés de liberté dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je viens de vous montrer ça un petit peu mieux, peut-être si vous voulez, sur une espèce d'expérience, comment on appelle ça, expérience virtuelle. Voici voilà, vous voyez mieux ce qui se passe. L'eau tombe par en haut et elle remplit les gobelets là, qui ont une forme triangulaire. Et puis ça fuit un petit peu. Et si vous regardez bien, vous voyez que la roue tourne un coup à droite, un coup à droite, un coup à gauche. Et on ne peut absolument pas prévoir si ça tourne toujours à droite, toujours à gauche. On ne peut pas prévoir ce qui se passe. Vous voyez, je ne sais pas si vous voulez savoir que... Là, ça fait deux... Là, ça part à gauche. Hein ? Eh bien, ce phénomène complètement concret et facile à réaliser, avec une roue de vélo et des gobelets en plastique, est aléatoire tout en étant déterministe. Et c'est ça qui a frappé Lorentz et puis ses petits camarades à l'époque. Comment est-il possible que des phénomènes simples aient des comportements compliqués ? Voilà, tout simplement. Alors... Lorentz a eu un petit coup de chance, c'est qu'il a été invité à faire une conférence là-dessus, dans un colloque, et il semblerait que, comme souvent dans les colloques, on demande aux conférenciers d'envoyer leur titre, et puis ils oublient toujours de le faire, ou ils ne le font pas, et l'organisateur du colloque était bien embêté, parce qu'il fallait qu'il y ait un titre imprimé sur l'affiche, et comme l'organisateur connaissait Lorentz, c'est l'organisateur dont j'ai oublié le nom, mais que je ne devrais pas avoir oublié, qui a inventé le titre de Lorentz. Et il a inventé le titre suivant, je vous montrerai après ça. Does the flap of a butterfly's wings in Brazil sets off a tornado in Texas? Autrement dit, l'organisateur du colloque a eu le coup de génie. Il a trouvé la phrase qui rend le truc sexy, quoi. Hein, qui rend le truc vraiment attirant, quoi. Alors, et je pense que, et je vais essayer d'en discuter un petit peu après, je pense que c'est pas uniquement, mais c'est en grande partie à cause de ce titre et de cette jolie image du papillon qui bat des ailes au Brésil et qui, par une petite perturbation dans l'atmosphère, engendre une perturbation catastrophique du côté du Texas. C'est cette phrase qui, en une phrase, résume une idée scientifique, et je pense que c'est une des raisons qui font que ce concept scientifique a pu percoler, en quelque sorte, dans la société assez large. Alors, oui, c'est ça l'inconvénient avec les ordinateurs, c'est qu'on est obligé de suivre les exposés dans l'ordre de ce qui est écrit. Et moi, j'aime pas beaucoup ça. Alors voilà, je voulais vous montrer, je vais pas vous montrer l'article de Lorentz, mais je voudrais vous montrer quelques extraits de cet article pour vous encourager à aller le lire. Et... je le dis avec grande sincérité, il y a quelques articles de science que ça vaut la peine de les lire et de prendre le temps qu'il faut pour les lire. Regardez donc l'article de Lorentz et vous verrez un chef-d'œuvre. Il fait quelque chose comme 10-12 pages. Il n'est pas difficile à lire, mais il est génial. Il est génial précisément par ce mélange de maths, de physique, de science, de... C'est absolument fantastique, ce point de vue général sur la science. Vraiment, je vous recommande cet article. Et je vous montre quelques images. Vous voyez en particulier à droite, donc cet article date de 62, vous voyez en particulier à droite un dessin qui représente un objet que les mathématiciens appellent un template, qui a été inventé par les mathématiciens 20 ans plus tard. Et quand j'en ai parlé au mathématicien qui a inventé ça 20 ans plus tard, je lui ai dit, mais t'as pas regardé l'article de Lorentz? Il m'a dit, ah oui, mais Lorentz a publié dans une revue obscure. Alors, la revue obscure s'appelle Journal of Atmospheric Sciences, que je crois probablement beaucoup moins obscure qu'un grand nombre de revues mathématiques. Et je pense que c'est un exemple aussi intéressant qu'il faut méditer je ne sais pas si j'allais dire l'autisme d'un grand nombre de mathématiciens, qui ont vraiment du mal à aller voir ce qui se passe ailleurs, quoi, tout simplement. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Et je donnerai des exemples par la suite et de gens qui ne sont pas comme ça. Et voilà. Alors, vous voyez, cet article de Lorenz, je vous montre une autre page. Ceux qui connaissent la théorie moderne de l'équation des équations de Lorenz voient apparaître des choses qu'on croit vraiment très modernes et qui sont en fait déjà chez Lorenz. Alors, ce coup de l'effet papillon rend le truc extrêmement populaire immédiatement. Alors, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. J'ai bien sûr fait comme tout le monde, j'ai regardé sur Google. Et sur Google, on voit des tas de trucs incroyables. Par exemple, vous avez une page qui s'appelle « L'effet papillon et le marxisme ». Et qui est vraiment intéressante. Vraiment intéressante. Et puis, si vous faites... j'ai trouvé aussi une page très intéressante qui prouve à quel point l'idée s'est percolée, je crois qu'on peut dire, dans la population générale. Vous avez ici le Brésil d'un côté, le Texas de l'autre, mais tout le monde se reprend pour lui-même l'idée. Et voici un site où on trouve des tas d'articles où tout est modifié. Par exemple, vous avez dans le Figaro, on écrit « Brésil, Floride ». Dans Le Point, Claude Allègre écrit « Notre-Dame de Paris, Paris ». Dans Science et Vie Junior, etc. Californie, Normandie, Havane, Sydney. Vous avez là des listes et des listes d'articles. Et encore, ça se termine en 95 parce que la page que j'ai consultée s'arrête en 95. Vous voyez, c'est une preuve que les gens s'approprient l'idée. Alors, on peut aussi discuter, de constater une chose très intéressante, mais ça serait un autre débat, que très souvent, l'origine du désastre se trouve dans le tiers-monde. Comme c'est intéressant. Alors, ceci, encore une fois, engendre un succès absolument gigantesque dans la population, et pas seulement en France, partout, hein, le butterfly effect. Et je vais vous donner trois exemples que j'ai pris un peu au hasard sur Internet. Le premier, c'est une publicité qu'on trouve sur YouTube. La voilà. Ah, il faut plus de son.
Life comes at you fast. Be ready with Nationwide. Investments, retirement, insurance.
Nationwide is on your side.
C'est ce qu'on trouve sur YouTube quand on tape Butterfly Effect. Vous voyez, les gens s'attribuent l'idée qu'une petite modification dans le présent peut avoir des grandes conséquences dans le futur. On s'est tous attribué cette idée. Un deuxième exemple que j'aime bien aussi, c'est l'apparition de l'effet papillon dans le cinéma. On le voit partout. Par exemple, je crois que beaucoup d'entre vous ont vu l'année dernière le film Babel, qui illustre parfaitement cette idée que petite modification quelque part au Maroc entraîne des choses au Japon, au Mexique, etc. Hein? Et puis, je vais donner un exemple que j'ai trouvé aussi sur le cinéma. Je l'aime bien parce qu'en général, il n'y a pas beaucoup de matheux qui apparaissent dans les films. Et puis là, il y en a un qui apparaît et il me plaît bien. C'est un type que j'aime bien qui s'appelle Jeff Goldblum. Et c'est un des héros de Jurassic Park. Alors, je vais vous faire un petit plaisir, on va faire un petit extrait de Jurassic Park où vous allez voir le mathématicien à l'œuvre en essayant de draguer la jeune assistante en question.
Je comprends toujours pas cette théorie du chaos. Qu'est-ce que ça signifie ?
Purement et simplement de l'imprévisibilité dans les systèmes complexes. L'exemple type est l'effet papillon. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil à New York.
Waouh !
Je suis allé trop vite. Non, j'ai fait un survol. Bon, donnez-moi ce verre d'eau. Je vais vous montrer, nous allons faire une expérience. Il vaut mieux être stable. La voiture me secoue un peu, mais enfin, ça ne fait rien. C'est juste un exemple. Alors, bon, mettez votre main à plat comme dans les hiéroglyphes. Maintenant, disons qu'une goutte d'eau tombe sur votre main. Dans quel sens va rouler cette goutte, hein? Vers quel doigt, le pouce ou de l'autre côté?
Le pouce, je dirais.
Ok, vous ne bougez pas la main, hein? Restez immobile, je vais faire la même chose en passant au même endroit. Dans quel sens va-t-elle rouler d'après vous?
Disons, en arrière,
voyez,
le même
sens, en arrière, le même sens. Oh, ça a changé. Ça a changé pourquoi? Parce qu'il y a d'infimes variations. À cause de l'orientation de votre pilosité.
Là, elle ne regarde pas.
La différence de dilatation de vos veines, les imperfections de la peau.
Les imperfections de la peau.
Bon, les vôtres sont microscopiques. Ça ne surprendit jamais. Il y a une forte influence sur le résultat final. C'est quoi?
L'imprévisibilité.
Exactement. Ah. Venez. Non, regardez ça. J'ai raison, vous voyez. Personne n'aurait pu prédire que le professeur Grant allait sauter brusquement du véhicule en marche.
Alan?
Et voilà, encore un exemple. Et je me retrouve tout seul, là, et je me parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos.
Alors, un troisième exemple, encore plus farfelu, je ne vais pas le mettre longtemps parce que ça fait mal aux oreilles, c'est des musiciens qui se sont mis à composer de la musique en suivant les orbites de l'attracteur de Lorentz. Hein? C'est-à-dire que la note qui est jouée dépend de la position. Alors, on ne va pas le mettre longtemps, hein, parce que... Voilà la musique de Lorentz. Bon, j'arrête. Et maintenant, on va parler un peu de maths. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant tout ce temps-là, les mathématiciens? Alors, je vais essayer de réhabiliter ma profession en vous expliquant deux choses. D'abord que, oui, les mathématiciens étaient en avance. Car bien avant Lorentz, les mathématiciens avaient dit la même chose, et on va essayer d'expliquer ça. Hadamard et Poincaré, au tout début du XXe siècle, avaient dit exactement la même chose. Ça, c'est le point positif. Puis le point négatif, c'est que ce qu'avaient dit Hadamard et Poincaré a été immédiatement oublié. À commencer par les mathématiciens, et même les plus grands, puisque en 1960 et dans les années 70, le grand mathématicien Snell, qui est vraiment un des géants du XXe siècle, médaille Fields et tout, a fait un certain nombre de conjectures qui étaient évidemment fausses s'il avait lu Lorentz. Et il lui a fallu du temps pour comprendre que ces conjectures étaient naïves. Mais une fois qu'il a compris qu'elles étaient naïves, il s'est bien rattrapé et il a développé une théorie qui fait qu'aujourd'hui, l'attracteur de Lorentz, la dynamique de Lorentz, est quelque chose qui appartient en quelque sorte au corpus des connaissances mathématiques. Alors, je vais commencer par vous expliquer ce que Hadamard, Poincaré avaient fait, mais pas vraiment vous expliquer ce qu'ils ont fait. Je vais essayer de comprendre comment ça se fait que ce qu'ils ont fait n'a pas été compris. Comment est-ce possible que des grands mathématiciens de cette stature puissent louper leur coup, alors que, je vais vous le montrer, ils ont fait des efforts. Alors, commençons par Hadamard. Hadamard a écrit un article en 1897 qui s'appelle « Les surfaces à courbure opposée », aujourd'hui on appelle ça les courbures négatives, « Les surfaces à courbure opposée et leur ligne géodésique ». C'est un article vraiment merveilleux, mais pour mathématiciens, et qui est un peu abscon, quoi. C'est-à-dire, il faut travailler, il faut le lire, c'est pas facile. Je vous ai mis quelques énoncés qui prouvent que vous voyez, ça parle de géodésique, c'est des choses un peu compliquées. Mais en particulier, je voudrais insister sur le fait que Hadamard avait déjà compris en 1897 que le problème qu'il étudiait, que je vais vous expliquer tout de suite, c'est le comportement d'une... Prenez une surface, puis vous lancez une bille sur la surface et vous vous posez la question de savoir comment la bille va se déplacer sur la surface. Et Hadamard avait montré que le mouvement d'une telle bille sur la surface peut avoir ce phénomène de sensibilité aux conditions initiales. Et à la fin de son article, il pose vraiment la vraie question du physicien, c'est-à-dire, est-ce que ce que j'ai fait pour une bille sur une surface a un quelconque intérêt pour le monde physique? Et il pose la question très explicitement, les circonstances que nous venons de rencontrer se rencontreront-elles dans d'autres problèmes de mécanique, sous-entendu plus sérieux? Se présenteront-elles en particulier dans l'étude du mouvement des corps célestes? C'est ce qu'on ne saurait affirmer. Il est probable cependant que les résultats obtenus dans ces cas difficiles seront analogues aux précédents, au moins par leur complexité. Donc il avait tout compris. Mais il a publié ça dans une revue obscure. Il a écrit en termes mathématiques très, très difficiles d'accès. Personne ne l'a compris. Par contre, il y en a un qui l'a compris, et c'est ça que je voudrais expliquer, c'est que c'est quand même un mystère que ça ne soit pas passé, c'est Pierre Duhem. Pierre Duhem, c'est un, vous connaissez probablement, le grand philosophe des sciences du début du XXe siècle. Il a tout compris, et il a compris que son rôle à lui était d'expliquer au grand public cultivé ce qu'avait fait Adamar. Alors, il a écrit un texte absolument merveilleux, dont je ne prends ici que des extraits, mais je vais en lire des extraits quand même, pour vous montrer qu'il fait des efforts pour expliquer, sans formule mathématique, sans lettres grecques, de manière compréhensible. Alors, je vais lire ce qu'il écrit. « Une masse matérielle glisse sur une surface, aucune pesanteur, aucune force ne la sollicite, aucun frottement ne gêne son mouvement. Elle décrit une ligne que les géomètres nomment une ligne géodésique. » Lorsqu'on donne la position initiale de notre point matériel et la direction de sa vitesse initiale, la géodésique qu'il doit décrire est bien déterminée. Imaginons le front d'un taureau, avec les éminences d'où partent les cornes et les oreilles, et les cols qui se creusent entre ces éminences. Nous allongeons sans limite ces cornes et ces oreilles, de telle façon qu'elles s'étendent à l'infini. Nous aurons une des surfaces que nous voulons étudier. Donc, voici un taureau, et vous imaginez que vous lancez une bille sur la surface de la tête du taureau, et puis il y a les cornes, il y a les oreilles, et la bille va essayer de frayer son chemin en passant tantôt entre deux oreilles, tantôt entre une oreille et une corne, etc. Alors, voici le taureau dessiné par Adamar. Un peu moins bien, hein. Bon. Je continue ce qu'écrit Duhem. Les géodésiques peuvent présenter bien des aspects différents. Les unes tournent sans cesse autour de la corne droite, les autres tournent autour de la corne gauche, ou de l'oreille droite, ou de l'oreille gauche. D'autres, plus compliquées, font alterner, suivant certaines règles, les tours qu'elles décrivent autour d'une corne avec les tours qu'elles décrivent autour de l'autre corne ou de l'une des oreilles. Enfin, sur le front de notre taureau, aux cornes et aux oreilles illimitées, il y aura des géodésiques qui s'en iront à l'infini. Les unes en gravissant la corne droite, les autres en gravissant la corne gauche, d'autres encore en suivant l'oreille droite ou l'oreille gauche. Malgré cette complication, si on connaît avec exactitude la position et la direction initiale, la géodésique du mouvement sera déterminée sans ambiguïté. Il en sera tout autrement si les conditions initiales ne sont pas données mathématiquement, mais pratiquement. J'aime bien ça, hein, pas mathématiquement, mais pratiquement. On aura beau augmenter la précision avec laquelle sont déterminées les données pratiques, jamais la géodésique qui demeure à distance finie, en tournant sans cesse autour de la corne droite, ne pourra être débarrassée de ses compagnes infidèles qui, après avoir tourné comme elle autour de la même corne, s'écarteront indéfiniment. Si donc un point matériel est lancé sur la surface étudiée à partir d'une position et une vitesse géométriquement donnée, la déduction mathématique peut déterminer la trajectoire, mais pour le physicien, cette déduction est à tout jamais inutilisable. Encore un qui avait compris. Et vous voyez, il avait compris et il fait des efforts. Il écrit des textes, entre guillemets, compréhensibles, pas forcément très poétiques, mais il fait des efforts pour le grand public. Poincaré également a fait des choses sur la sensibilité aux conditions initiales. Je n'ai pas envie de vous raconter ce qu'il a fait, tellement ça me prendrait de temps. Mais je voudrais insister sur le fait que le grand Poincaré a lui aussi fait des efforts de communication et a écrit des textes compréhensibles par tous pour expliquer ce phénomène, en particulier dans La science et la méthode, en 1908. Alors je vous lis quelques extraits et vous verrez que Poincaré, en 1908, avait déjà pensé pas au papillon, mais à l'ouragan. Il avait déjà trouvé la phrase presque, mais pas si bien. Mais quand même. Alors voilà, je vous lis ce qu'écrit Poincaré. Pourquoi les météorologistes, donc il parle bien français, donc ça va être météorologiste, hein. Pourquoi les météorologistes ont-ils tant de peine à prédire le temps avec quelque certitude? Nous voyons que les grandes perturbations se produisent généralement dans des régions où l'atmosphère est en équilibre instable. Les météorologistes voient bien que cet équilibre est instable, qu'un cyclone va naître quelque part, mais où ils sont hors d'état de le dire. un dixième de degré en plus ou en moins en un point quelconque, le cyclone éclate ici et non pas là. Et il étend ses ravages sur des contrées qu'il aurait épargnées. Vous voyez, vraiment, il a vraiment compris la même chose que Lorentz. Il dit la même chose que Lorentz. Hein ? Si on avait connu ce dixième de degré, on aurait pu le savoir d'avance. Mais les observations n'étaient ni assez serrées, ni assez précises, et c'est pour cela que tout semble dû à l'intervention du hasard. Ici encore, nous retrouvons le même contraste entre une cause minime, inappréciable pour l'observateur, et des effets considérables qui sont parfois d'épouvantables désastres. Vous voyez, il dit la même chose que Lorentz, et je trouve qu'il le dit de manière très claire. Alors comment se fait-il que ce n'est pas passé le message ? Alors j'ai une petite théorie, je pense qu'elle mériterait d'être plus approfondie. C'est simplement que je pense que cette idée que le déterminisme n'est pas incompatible avec une méconnaissance du futur est une idée qui était trop révolutionnaire au début du XXe siècle. Plaçons-nous au début du XXe siècle et pensez à ce qu'était la physique ou ce qu'était même le monde au début du XXe siècle. Il était extrêmement déterministe. Le travail des physiciens consistait à déterminer le futur. Un certain nombre de physiciens disaient que la physique était terminée et qu'il n'y avait plus que quelques petits détails à régler. Au début du XXe siècle, on n'avait pas encore la mécanique quantique. On n'avait pas encore le théorème d'incomplétude de Gödel. On n'avait pas encore réfléchi sur le déterminisme de manière profonde. Et en fait, on avait une croyance naïve dans un déterminisme parfait. Aujourd'hui, plus que 100 ans plus tard, nous sommes prêts à accepter, plus modestement, une science moins prédictive. Et il a fallu, à mon sens, attendre les années 60 pour que le public, que l'homme commun, ou je ne sais pas comment dire, soit prêt à accepter cette idée que le futur, bien que déterministe, est essentiellement aléatoire. Donc mon sentiment, c'est que, quels que soient les efforts d'Adamard et de Poincaré, ce n'était pas la peine d'essayer, c'était trop tôt. Je signale par ailleurs que Lorentz, encore une fois, je vais vous dire ma admiration pour lui, dans la bibliographie de l'article de Lorentz, Poincaré est largement cité. Lorentz n'est pas un rigolo qui a trouvé une idée sans aller à la bibliothèque. Hein ? Lorentz était un rat de bibliothèque, contrairement à Smale. Hein ? C'est inacceptable que quelqu'un comme Smale n'ait pas été à la bibliothèque. Hein ? Alors, maintenant je vais essayer de parler un tout petit peu, très rapidement, de ce qui s'est passé en mathématiques rapidement depuis 1960. Eh bien, je vous dis, en 1960-65, par là, Smale conjecture que pour toute équation différentielle générique, les trajectoires finissent par s'accumuler sur des positions d'équilibre ou des positions des orbites périodiques, peu importe, il conjecture quelque chose de stupide. Stupide, ça veut dire donc le contre-exemple évident est ce qui est donné par Lorentz. Il ne pense pas, parce qu'il ne connaît pas, que quelque chose peut être plus compliqué qu'une orbite périodique. Vous savez, tout au moins de mon temps, en apprenant en physique, il y a le régime transitoire et le régime permanent. Et on a l'impression que c'est une espèce de vérité universelle, que tout système physique, après un certain temps, se met à osciller comme une truc périodique. Ça, c'est quelque chose que moi, on m'a appris quand j'étais étudiant, et que je pense est une erreur. Je veux dire, il y a des tas de systèmes physiques qui, après une période transitoire, ne sont pas périodiques. Et l'exemple de base, c'est précisément l'attracteur de Lorentz. Vous avez un truc qui, pour l'éternité, va tourner dans les oreilles de Mickey, un coup à droite, un coup à gauche, de manière aléatoire. Autrement dit, le régime permanent ne doit pas être compris comme un régime périodique. La périodicité, c'était bon pour le 19e siècle, c'est plus bon pour aujourd'hui. Alors, donc, le grand Smale conjecture un truc stupide, mais bien entendu, il se rattrape très vite. En 1970, il trouve un contre-exemple à sa propre conjecture sur la plage de Copacabana, dit-on, qu'on appelle aujourd'hui le fer à cheval. Et il développe ça... Comment ?
C'est pas la plage qui s'appelle le fer à cheval.
Ah non, c'est le contre-exemple qui s'appelle le fer à cheval. Voilà. Non, la plage s'appelle l'Aimé, le gouvernail. Et à partir de 1971, des mathématiciens. Bon, Ruel prétend qu'il est physicien, je veux bien le croire, mais bon. À partir de 71, des articles sur la turbulence, des articles, on peut dire, de physique, commencent à incorporer maths et physique, et à incorporer de manière fondamentale l'exemple de Lorentz comme étant une pièce importante dans la compréhension de la turbulence. Et à partir de 76, l'attracteur de Lorentz est, comme j'ai écrit, est pris en compte et appartient maintenant au bestiaire des mathématiciens grâce à des mathématiciens comme Guggenheimer, Williams. Williams, c'est celui dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'avait pas lu Lorentz parce que Lorentz publiait dans une revue obscure. Et puis il se passe des tas de choses. Je vous dirai quelques petites choses par la suite sur ce qui se passe en ce moment. Mais je pense qu'il est temps, d'abord, que je regarde l'heure qu'il est. Et deuxièmement, que je vous dise très, très rapidement, que je vous dise un peu comment moi, je suis tombé un peu là-dedans et pourquoi ça m'a intéressé d'étudier un peu cette équation. C'est pour des raisons de topologie que je vous expliquais. Voici encore une fois l'attracteur de Lorentz, mais je vais me concentrer sur un certain nombre d'orbites qui sont périodiques, justement. C'est-à-dire que cet objet, bien que non périodique, contient des tas de solutions périodiques. En voici une. À l'intérieur de l'attracteur de Lorentz, il y a quelques positions extrêmement particulières qui sont telles que quand on les suit, on revient sur soi-même. Alors, il y en a une infinité, là où je vous montre quelques-unes. Et les courbes qu'on obtient ainsi dans l'espace sont des courbes fermées dans l'espace et qui forment donc ce que les mathématiciens appellent un nœud. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est quels sont les nœuds qu'on peut rencontrer dans cet attracteur. Et pourquoi on se pose cette question? C'est parce que on a le sentiment que si on comprend la nature topologique des nœuds qu'on rencontre, on aura peut-être dit quelque chose d'intéressant sur l'attracteur lui-même. Voilà une interface entre dynamique et topologie qui me semble intéressante, et voilà pourquoi je suis tombé dans ce problème. Alors, je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait là-dessus, c'est pas mon but aujourd'hui. Mais j'avais l'intention quand même de faire une parenthèse dans cet exposé pour vous expliquer quelque chose d'un peu différent. La topologie, qu'est-ce que c'est qu'un nœud et pourquoi c'est intéressant? Pourquoi les mathématiciens sont intéressants? Se sont intéressés à ça? S'ils sont intéressés. Et pour vous l'expliquer, je vais vous montrer que c'est toujours la même histoire. C'est encore un jeu de chat et de la souris entre les maths et la physique. Même si aujourd'hui, les mathématiciens considèrent que la théorie des nœuds est une des théories les plus pures ou abstraites des mathématiques, l'histoire montre que la théorie des nœuds provient de la physique. Alors comment est-ce qu'elle en provient? Elle en provient par un truc de physique qui date de milieu 19e siècle. C'est un truc qu'on apprend dans les cours de mécanique des fluides. C'est avec un fluide parfait qui suit les équations de l'air. Et bien, le théorème de Helmholtz-Kelvin affirme que les lignes de tourbillon sont transportées par le flux. Si vous avez un fluide qui présente un tourbillon le long d'une courbe, par exemple, et bien, au cours du temps, cette courbe se déforme, mais elle reste stable. C'est-à-dire que dans un fluide parfait, la vorticité ou le tourbillon est transporté par le flot. Si vous regardez par-dessus le pont Pasteur, vous voyez les tourbillons créés par les piles du pont, et bien vous voyez qu'ils se promènent dans le Rhône et qu'ils sont transportés par le flot. Le tourbillon est transporté par le flot. Alors, ce théorème est démontré par Helmholtz au milieu 19e siècle, et il est traduit de l'allemand vers l'anglais par Tate. Tate était un physicien, et Tate montre ce théorème à son copain Thomson, Kelvin Thomson, sur les noms. Il le montre à son copain Thomson, et pour le montrer, il montre des expériences. Il fait des expériences avec des rondes fumées de cigarettes. C'est assez merveilleux. Et il montre la stabilité de ces lignes de tourbillon. Et quand Kelvin voit ça, je vous rappelle qu'on est en 1869. En 1869, Kelvin est très impressionné parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore de théorie atomique. On ne sait pas ce que c'est qu'un atome. On n'a aucune idée. Mais on cherche quelque chose qui pourrait être stable. Qu'est-ce que ça peut être? L'oxygène? Qu'est-ce que ça peut être le carbone? Et Kelvin a cette idée absolument géniale, qui est malheureusement fausse, mais absolument géniale, parce que c'est la première fois qu'il y a une interaction véritable entre la topologie et la physique, et Dieu sait s'il y a eu d'autres interactions dans la suite. Il a l'idée que peut-être un atome n'est qu'une ligne de tourbillon dans le mouvement de l'éther. Nous vivons dans un éther, et dans cet éther, il y a un fluide parfait qui se balade, et dans ce fluide parfait, il y a des lignes de tourbillon, et ces lignes de tourbillon peuvent faire des nœuds. Et comme le tourbillon se transporte par le flot, le type du nœud se préserve. Et donc, Kelvin dit à son copain Tate, tu devrais me faire la liste de tous les nœuds possibles. Je vous rappelle que Mendeleïev n'était pas encore en action. Fais-moi donc la liste de tous les nœuds possibles, et à côté, on mettra carbone, azote, etc. Ça s'appelle donc la théorie de vortex atome. Je vous recommande de lire les articles de Kelvin là-dessus, c'est aussi assez somptueux. Donc théorie complètement fausse, mais vraiment géniale. Et alors Tate se met au travail, et il y travaille pendant 20 ans. Je vais vous montrer une page d'un article de Tate, mais je vous garantis qu'il y a beaucoup de pages. Tate s'attelle à la classification des nœuds, et il arrive à trouver tous les nœuds jusque 10 croisements, si je me souviens bien. Il les trouve tous. Et c'est un travail gigantesque dans lequel il fonde une partie importante des mathématiques de la topologie d'aujourd'hui, la topologie des nœuds. Voilà, si je vous disais ça, c'était pour vous donner encore un exemple de... Oui, en quelque sorte, Kelvin a fait ce travail de mettre en rapport physique et maths. C'est quelque chose d'absolument remarquable. Alors, juste pour vous donner un petit théorème que j'ai montré, mais juste pour donner un exemple, c'est de montrer d'autres choses que ça. Mais c'est... Alors, voilà, par exemple, vous prenez les nœuds qui ont jusque 20 croisements, c'est-à-dire les nœuds que vous pouvez dessiner dans l'espace et la projection sur un plan à 20 croisements. Des nœuds comme ça, on sait qu'il y en a 1 701 936. Comment ? Qu'est-ce que j'ai dit ? 13 croisements. Pardon, voilà, 13 croisements. Oui, 20 croisements, c'est hors de la portée des ordinateurs pour des siècles et des siècles. C'est pas la peine d'essayer. Hein. Donc il y a 1 700 000. Eh bien, ce que je dis, c'est que parmi ce 1 700 000 de nœuds, seulement 20 d'entre eux peuvent être détectés comme des orbites périodiques dans l'attracteur de Lorentz. Voilà le genre de choses qui m'ont intéressé. Bon, je dis pas que c'est fondamental pour la physique, hein, je dis. Mais et voilà, moi j'aime bien ce petit jeu, la physique suggère un truc, les maths ils font un truc de leur côté, peut-être que ça peut être utile, peut-être que ça peut être utile, j'en sais rien, mais c'est pas grave. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir encore à Lorentz, parce que Lorentz, c'est vraiment un grand bonhomme. La plupart des gens retiennent de l'effet papillon la sensibilité aux conditions initiales. Une petite modification des conditions initiales entraîne une grande modification dans le futur. Mais ça, c'est quelque chose de négatif. Comment est-ce qu'on peut fonder une théorie scientifique sur le fait que quelque chose de négatif se passe ? Eh bien, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que Lorentz n'a pas dit que ça. Et Lorentz a écrit un article absolument génial par la suite, dans lequel je vais résumer ce qu'il a dit, je vais simplement vous lire ce qu'il a écrit, traduction libre. Alors, il y a deux grandes idées. La première, c'est une idée en quelque sorte négative, qui est un peu du genre « petite modification des conditions initiales entraîne grand changement dans le futur ». Mais il la modère un peu. Et la deuxième est beaucoup plus intéressante, je crois. Il dit « si un battement d'aile d'un papillon peut engendrer un ouragan, la même chose est vraie pour tous les autres battements d'aile du même papillon, mais aussi pour les battements d'aile des millions d'autres papillons. Sans parler de l'influence des activités des innombrables autres créatures plus puissantes, comme les hommes, par exemple. » Donc voilà, première remarque, c'est pas seulement un papillon qui détermine l'ouragan au Texas, c'est tout le monde y participe. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, je pense, justifie l'idée que ça passe dans le grand public, c'est que moi aussi, petite personne dans ce grand monde, moi, je peux faire quelque chose. Hein ? C'est ça qui est intéressant aussi. N'importe qui, c'est très encourageant. On est 6 milliards et... Voilà. Et maintenant, j'en viens à la deuxième idée exprimée par Lorentz et que je vais exprimer sous la forme suivante. Lorentz affirme ce qu'on appelle en maths aujourd'hui un principe ergodique. Mais il ne dit pas de mots compliqués, il dit bien mieux que ça. Il dit voici. J'avance l'idée qu'au fil des années, les petites perturbations ne modifie pas la fréquence d'apparition des événements tels que les ouragans. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de modifier l'ordre dans lequel ces événements se produisent. Ça, c'est vraiment génial. C'est l'idée que le travail du météorologiste ne consiste pas à dire qu'il va y avoir un ouragan ou pas dans le Texas à telle date. Le travail consiste à déterminer la proportion de jours où il y aura un ouragan dans le Texas l'année prochaine. Et ça, ce n'est pas le même travail. Au lieu de calculer la position d'un point dans 152 jours, on calcule des moyennes. On utilise des théorèmes ergodiques. Donc là, vraiment, je pense que c'est un truc, j'aimerais bien que vous sortiez de cette salle avec cette idée, c'est que Lorentz nous a enseigné deux choses. Un, la sensibilité aux conditions initiales, et deux, l'insensibilité aux conditions initiales des moyennes, qui, elles, sont accessibles aux physiciens, s'ils travaillent bien. Alors, maintenant, la question qui se pose, et qui, je pense, est vraiment fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça dans la pratique ? Alors, je vais commencer par vous dire la pratique du mathématicien. Je vais une page de maths. Alors, les matheux, ils regarderont. C'est un théorème de 2001. Les matheux lisent. Et non, matheux, et ils m'écoutent. Je vais vous dire, il y a un truc, une phrase que j'aime bien de Goethe. Hein, Goethe, il dit, les mathématiciens sont comme les Français. Quand on leur explique quelque chose, ils le traduisent dans leur langue et alors on ne comprend plus rien. Eh bien, voilà, cette phrase, cette page que vous avez là, c'est la traduction de la page précédente. Celle où Lorentz s'expliquait de manière si claire que, indépendamment de la condition initiale, les moyennes étaient les mêmes. Eh bien, mathématiquement, on dit pour presque tout point X, dans le point sur de Lebesgue, etc., etc. C'est expliqué là. Hein. C'est la même chose en maths, mais le seul truc, c'est que maintenant, c'est un théorème. Il a fallu attendre du temps, parce que vous voyez, le théorème est un théorème qui date de 2001, et qui suscite encore quelques débats, d'ailleurs. Vous savez que j'ai déjà eu l'occasion de discuter de ça ici. Qu'est-ce que c'est qu'un théorème, que ce n'est pas un théorème ? Moi, je dirais que c'est un théorème, mais il faut encore que les spécialistes s'accordent vraiment là-dessus. Alors maintenant, on arrive à la vraie question. La vraie question qui n'est pas du tout de mon ressort, puisque je ne suis pas physicien. La vraie question, c'est est-ce que l'intuition de Lorentz, selon laquelle, en caricaturant l'équation, on avait quelque chose qui ressemblait à la vérité, est justifiée ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que l'effet papillon, est-ce qu'il existe dans la vraie vie ? Est-ce que le modèle simplifié de Lorentz s'applique ou pas à l'atmosphère ? Là, le mathématicien arrête, c'est plus son travail. Là, c'est le travail du physicien. Ou peut-être un peu du mathématicien, mais pas trop. Hein ? Alors, je vais mettre, moi je ne vais pas m'engager là-dessus, puis en plus je ne suis pas suffisamment, pas du tout compétent là-dessus, donc ce n'est pas mon problème, mais je vais juste vous expliquer que ça discute encore, en particulier entre deux personnes. L'un est un grand mathématicien qui s'appelle Arnold, qui en 1966 et par la suite a beaucoup développé cette idée, a écrit un article qui est publié aux Annales de l'Institut Fourier à Grenoble, en français d'ailleurs, qui s'appelle « Sur la géométrie différentielle des groupes de lignes de dimension infinie » et ses applications à l'hydrodynamique des fluides parfaits. Dans lequel, alors je vais vous le dire en deux mots, ce qu'il explique, c'est que le mouvement d'un fluide parfait, bien sûr, c'est un mouvement dans un espace de dimension infinie, puisque l'espace des configurations, c'est de dimension infinie, mais il explique que ce mouvement est fondamentalement le même que celui d'une bille sur une surface. C'est les mêmes équations. Autrement dit, il explique que l'équation de l'air qui régit le mouvement des fluides, c'est la même équation que l'équation d'une toupie qui tourne ou d'une bille qui se promène sur une surface. Et par conséquent, il suggère que l'article d'Adamard dont je vous ai parlé au départ peut effectivement se transcrire et donner une dépendance des conditions initiales aux conditions initiales sur le mouvement des fluides. Ça, c'est le point de vue Arnold. Et puis, il y a un autre point de vue qui est défendu par un collègue grenoblois qui s'appelle Raoul Robert, qui a écrit plusieurs articles, j'en cite un, en 2001, qui s'appelle « L'effet papillon n'existe plus », dans lequel il critique violemment le point de vue d'Arnold, au point qu'ils se sont même pas mal disputés. Je crois qu'ils ne se parlent plus. Et je vais vous dire un peu le point de vue de Raoul Robert, qui est tout à fait intéressant. Raoul Robert accuse Arnold de confondre le point de vue lagrangien et le point de vue eulérien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le point de vue lagrangien, c'est la chose suivante. Vous étudiez le mouvement de l'atmosphère, et puis vous prenez une particule d'air à un instant, puis vous posez la question, où est-ce que cette particule sera dans 15 jours ? Ça, c'est le point de vue lagrangien. Le point de vue eulérien, c'est « je suis ici, il fait 22 degrés, la vitesse du vent est de temps, quelle sera la température ici, dans 15 jours, et quelle sera la vitesse du vent ?» C'est une question tout à fait différente. C'est deux façons différentes de penser la même chose. Il y a un changement de repère, si vous voulez. Ce que dit Arnold, c'est que l'instabilité, la dépendance des conditions initiales se fait sentir au niveau lagrangien. Mais comme le dit Raoul Robert, moi je m'en fiche de savoir si l'air que je respire maintenant était au Brésil il y a 15 jours ou en Russie il y a 15 jours. Moi ce qui m'intéresse, c'est savoir la température qu'il fait ici et la vitesse du vent. Ou l'hygrométrie, ou je ne sais quoi. Autrement dit, c'est le point de vue eulérien qui nous importe, nous, qui est important pour le météorologiste. Bon, bref, dispute prononcée. Je pense que la question n'est pas encore décidée et je vais vous montrer quelques photos que Raoul Robert montre. Il montre ce genre de photos qui sont très jolies, là, qui montrent des mouvements compliqués dans l'atmosphère. Et vous voyez que même si peut-être qu'au niveau microscopique, en appelant microscopique 100 mètres ou 200 mètres ou 1 km, peut-être que c'est extrêmement sensible aux conditions initiales, mais il n'empêche que quand on regarde une carte du ciel comme ça, on voit des structures globales et que ces structures globales ont, elles, un comportement complètement déterministe. Même si je regarde en tout petit, peut-être qu'il se passe des choses que je ne maîtrise pas. Mais moi, je m'en fous pour savoir le temps qu'il fera demain. Ce que je veux savoir, c'est le mouvement des grosses structures. Donc le débat, il est là. Le débat, ce n'est pas moi qui vais le lever, j'en sais absolument rien. Ça, c'est un travail de physicien. Hein. Alors, j'ai lancé. Alors maintenant, voilà, j'ai presque fini. Ce que je vous propose pour terminer, c'est d'une part de résumer, parce qu'on m'a toujours dit qu'il faut terminer par un résumé. Et puis, je voudrais aussi terminer par une deuxième fin, par une citation. Alors, le résumé, ben, j'ai déjà dit. Hein. Donc, je vous le répète. Donc, c'est ça qu'il faut vous retenir. Il y a deux choses à retenir. L'effet papillon se manifeste par 1. Une sensibilité aux conditions initiales. Une modification mineure peut changer de manière importante le déroulement futur. Ça, tout le monde le sait. 2. Une insensibilité aux conditions initiales. La fréquence d'apparition des événements futurs, mesurée sur de grandes périodes de temps, ne dépend pas des conditions initiales. Et ça, personne ne le sait. Et troisième conclusion de cet exposé, la question de savoir si oui ou non cet effet est présent en météorologie, est-ce qu'on le rencontre en biologie, est-ce qu'on le rencontre dans des phénomènes naturels, cette question est largement ouverte. Et plus du ressort des autres scientifiques, les mathématiciens peuvent aider, ils peuvent donner leur petit coup de main s'il le faut, mais ce n'est pas uniquement de leur ressort. Et pour terminer, je voudrais citer une citation, qui est beaucoup plus ancienne en fait que Lorentz, qui est encore beaucoup plus ancienne que Poincaré. C'est un texte, alors vous allez me dire peut-être que j'invente ou j'extrapole, mais je vais vous montrer un texte de Buffon dans lequel je vois l'ergodicité. Dans lequel vraiment Buffon a une conception du monde qui montre ça, qui montre l'ergodicité. Alors, je vous le lis, c'est écrit en vieux français, mais je trouve que c'est du très beau français, c'est une seule phrase. Alors j'essaye. Et en plus, ce n'est pas une seule phrase, parce que j'ai dû couper le début et la fin, parce que ça n'en finissait plus. Alors voilà, je la lis. « Tout s'opère, parce que, à force de temps, tout se rencontre, et que, dans la libre étendue des espaces, et dans la succession continue du mouvement, toute matière est remuée, toute forme est donnée, toute figure imprimée. Ainsi, tout se rapproche ou s'éloigne, tout s'unit ou se fuit, tout se combine ou s'oppose, tout se produit ou se détruit par des forces relatives ou contraires qui seules sont constantes et, se balançant sans se nuire, animent l'univers et en font un théâtre de scènes toujours nouvelles et d'objets sans cesse renaissants. Eh bien, l'ergodicité, c'est ça. Merci beaucoup.
Donc, on dit toujours que Lorenz a fait des expériences par ordinateur. Mais à l'époque, on n'avait aucune idée des erreurs d'arrondi et le fait qu'elles se propagent.
Justement, c'est intéressant, c'est qu'il a constaté, l'histoire raconte qu'il avait commencé à faire son calcul, et puis il est parti boire une tasse de café. Et puis il est revenu, et puis l'ordinateur s'était arrêté. Alors il a recommencé le même calcul. Et il a remis les mêmes conditions initiales, mais il a tronqué, quatre décimales après la virgule, ou je ne sais pas quoi. Et justement, il a constaté que ça ne donnait pas du tout les mêmes résultats. Mais il a constaté que, globalement, les trajectoires qu'il obtenait s'accumulaient sur le même objet à Mickey Mouse. Autrement dit, il a constaté que l'orbite était inaccessible au calcul, mais que l'attracteur que j'ai dessiné, lui, est stable et, robuste, comme on dit en maths maintenant. Hein ? C'est-à-dire que, on va dire comme ça, l'orbite est instable, mais son adhérence dans R3 est stable. D'accord ?
Donc c'est absolument insensible. Enfin, les erreurs d'arrondi qu'il faisait ici et là...
Ce que je veux dire, c'est bien sûr, une orbite est sensible aux conditions initiales. Par contre, si dans l'équation, il y a un 28, par exemple, tu remplaces par 28,1, et puis tu rajoutes après plus un centième de sinus x, eh bien, c'est un théorème, de Tucker d'ailleurs, c'est un théorème que la nouvelle équation différentielle, qui n'est pas vraiment la même qu'avant, bien sûr, elle a d'autres solutions, mais les solutions vont avoir le même comportement, c'est-à-dire qu'ils vont s'accumuler sur un objet qui sera homéomorphe au précédent. Et voilà. Autrement dit, l'attracteur est robuste, l'attracteur est stable, bien que les orbites sont instables. C'est ça le sel du truc. Il y a un mélange de stabilité de l'objet et d'instabilité des orbites individuelles. Toute la théorie ergodique est là. Hein ? D'accord ? Ah, t'étais là, toi, je t'avais pas vu.
L'attracteur de l'ordinateur de Lorenz différait très peu.
Exactement.
De l'attracteur de Lorenz,
on peut le dire comme ça.
À peu près de la taille
des d'arrondi. On peut dire l'ordinateur de Lorenz résolvait en fait une équation qui n'était pas exactement l'équation de Lorenz, mais une équation tronquée. Exactement.
Moi, j'aimerais revenir sur le... sur le concept d'ergodicité, parce que là, tu insinues que l'ergodicité, c'est un concept très important, qu'on le voit toujours arriver. Mais moi, j'ai découvert récemment, et ça m'a complètement traumatisé, que l'ergodicité, c'était pas un phénomène générique, et que y avait des systèmes où on pouvait avoir tantôt une orbite quasi périodique ou tantôt une orbite dégoûtante en fondation de la condition initiale.
C'est une question très intéressante, un peu technique peut-être.
J'y
réponds très rapidement. L'ergodicité n'est pas générique parmi les systèmes conservatifs. Si tu te limites au monde hamiltonien, par exemple, ou si tu te limites aux équations conservatives, donc un volume invariant, par exemple. Et si tu prends la divergence de l'équation de Lorenz, tu verras qu'elle est négative. C'est-à-dire que cette équation différentielle a la propriété de contracter les volumes de manière exponentielle. C'est l'opposé d'un système conservatif. Donc cette équation est hors du monde des Hamiltoniens. C'est une équation dissipative. Mais la vie est dissipative. L'Hamiltonien, c'est une invention de Mateus.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Qu'est-ce qui fait que le théorème de Tucker n'est peut-être pas encore vraiment un théorème ?
Tu vas pas être content. Tu vas pas être content, je suis désolé de le dire. C'est qu'un gros morceau est par ordinateur. Effectivement, c'est un de ces... Je suis désolé de te dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des grands morceaux où c'est computer assisted. Et moi, je préfère les brain assisted. Voilà, c'est tout. Sorry. Oui.
au début du XXe siècle, les gens n'étaient pas prêts à accepter l'indéterminisme lié au déterminisme. Et Boltzmann, là-dedans, comment il le voyait ?
Ah, c'est une bonne remarque. Boltzmann, il avait une vision de l'ergodicité qui est encore plus révoltante pour un mathématicien. Je ne sais pas si tu le connais, sa vision. Sa vision, c'est qu'il y avait, donc, quand tu prends un gaz et que tu regardes le mouvement des... le flot, quoi, qui correspond, lui disait, il y a une seule orbite. Une seule orbite. C'est comme si j'avais un champ de vecteur sur une variété qui n'a qu'une seule orbite. C'est-à-dire que la dynamique passe par tous les états. Là, c'est vraiment une version extrêmement forte de l'ergodicité. C'est tellement fort que tous les points sont les mêmes, quoi. Alors, donc, tu as raison. Bien sûr, en une heure, je suis obligé de simplifier à l'extrême, oui. mais tu as... Boltzmann était aussi un géant. Bien sûr. Mais je ne sais pas si Boltzmann aurait pensé pour des systèmes... Boltzmann parlait essentiellement de cinétique des gaz, on n'a qu'à dire. Est-ce que Boltzmann aurait parlé pour des systèmes macroscopiques comme l'atmosphère ? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Non, là, je ne sais pas. Je n'ai pas lu Boltzmann, donc... Écrire en allemand. Une question. Pourquoi je laisse la seule page pas drôle ?
Tu as mentionné la controverse entre Arnold et Raoul Robert. Je voudrais quand même dire qu'il y a quelques travaux dans les 15 dernières années, on va dire, qui montre que l'instabilité lagrangienne est source d'instabilité eulérienne.
Ah oui.
En tout cas, au moins en dimension 3. Donc, je ne suivrai pas quand même Raoul Robert.
Un petit détail, c'est que Raoul Robert suppose l'atmosphère de dimension 2.
Oui, il y a ça aussi, effectivement. Bon. c'est pas inintéressant, puisque ça pourrait être une explication de la stabilité de, par exemple, la tache rouge de Jupiter. Ceci dit, là, on est encore plus loin d'une preuve.
Oui, tout à fait.
Ouais. Ah, il y a des hypothèses derrière qui sont invérifiables pour l'instant.
Ouais. En tout cas, peut-être que j'ai mal présenté la chose. J'ai dit que ce n'était pas un problème de matheux, je crois que j'ai tort. C'est un problème dans lequel les matheux ont leur mot à dire, mais ne sont pas les seuls à avoir des choses à dire. Voilà, c'est ce que je voulais te dire.
Oui, je voulais demander pourquoi ne pas avoir parlé de l'exemple peut-être favori pour dire qu'on trouve en physique des comportements chaotiques, c'est la mécanique céleste en fait.
Poincaré. D'abord, j'avais qu'une heure, et deuxièmement, j'en ai un peu parlé puisque c'est justement la contribution de Poincaré. Quand je disais Adamar pose la question, j'ai dit à la fin, la question d'Adamar, c'est ce phénomène se présentera-t-il dans la mécanique céleste ? C'est ça qu'il voulait dire. Mais j'aurais pu, si tu me donnes une heure de plus.
Oui. Ah non, c'était pas en poste.
Non, mais tu as raison.
C'est quand même, si j'ai bien compris de l'exposé, c'est la question qui était ouverte. Finalement, est-ce qu'il y a bien un phénomène physique où
la vérité, c'est qu'on n'en sait toujours rien, à ma connaissance. Est-ce que quelqu'un sait s'il y a du chaos dans le système solaire ? Qui ? Comment ? Comment ? Ah, mais ça, c'est pas un truc de maths. Non, je veux dire, justement, c'est pour ça que je pose la question. C'est très intéressant ce qu'il fait, c'est absolument passionnant. Mais encore une fois, il n'y a aucun théorème derrière. C'est des indications numériques qui font penser que. C'est pas du tout la même chose. Hein, donc, c'est pour ça que je fais un peu la différence entre les différents niveaux de. Je pense qu'il n'y a aucun. Bon, ouais, c'est un débat intéressant. Oui. Mais le truc de Lascar, c'est tout à fait intéressant, c'est passionnant, mais c'est du numérique. Et c'est, par conséquent, ce ne sont pas des théorèmes établis au sens mathématique du terme. Mais ce n'est pas pour dénigrer. Hein. Hein ?
Mais si on considère que l'univers a une durée finie de vie,
ouais.
Le système ne sera forcément pas ergodique.
Ouais, ça c'est clair ça. Mais je pense que si on refuse l'infini, c'est pas la peine de faire des maths. Hein. Ouais, je suis d'accord. Non, mais ça c'est vrai. Par exemple, dans le truc ergodique, on dit si on fait une moyenne sur un temps suffisamment long. J'étais sûr que quelqu'un me demandait sur combien de temps il faut faire la moyenne. Et si la réponse est sur 1 milliard d'années, d'ailleurs, c'est pas très intéressant ce qu'il raconte. Donc effectivement, ça c'est le truc habituel du matheux, quand t'es en l'infini. D'accord. Non, je suis complètement d'accord. Un système, pour qu'il soit ergodique, il faut qu'il existe pendant un temps infini, ça c'est clair. Sinon, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est tout à fait une bonne remarque. Mais c'est vrai que si on retire l'infini aux maths, bon, il reste encore des choses quand même, mais pas trop, quoi.